Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir et merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission Club de la Presse. Trois médecins assermentés sont désignés pour valider l'attitude des candidats au poste de président de la République et de président du Conseil des ministres. Ils ont prêté leur serment le mardi dernier devant la Cour constitutionnelle à Lomé. Il s'agit respectivement de Daniel Noumou Yaouté, bactériologue, virologue, Baragou Soudougoua, cardiologue, Issaka Bayaki, dermatologue, vénérologue, tous en service au CHU Sylvanus Olympio et enseignant à la faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. La désignation et l'assermentation de ce collège médical s'inscrit dans le processus de mise en place ou de la mise en œuvre alors des nouvelles dispositions de la Constitution. Leur mission consistera à établir un rapport expertise sur l'état physique et mental de chaque candidat, condition indispensable à la validation des candidatures. Nous allons aborder le sujet dans cette émission et nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays, le Togo et aussi hors de nos frontières dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi 24 avril 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, la coordination technique bien sûr, il y a Michel Tomega qui est à la mise en ligne et aussi à la technique et je suis Pascal Lousseau au micro. Merci fraternel à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM, nous sommes à Sokodé, Ska FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapao. Vous le savez très bien, vous pouvez nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre alors sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes jeudi et déjà l'équipe de jeudi se met en place. Ambroise Yao, André, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour nos amis qui sont derrière nous, les techniciens donc. Bonjour à ceux qui nous suivent depuis les coins et les recoins de Lomé, de l'intérieur du pays, nos amis de Sokodé, de Niamtougou, de Kara, de Dapaon, de Datapamé, de Tchévi et autres, et ceux de la diaspora. Je voudrais, si tu le permets, profiter pour commencer cette émission avec cette actualité qui parle des chefs traditionnels du canton de Badia, qui dit oui à la 5e République. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non, c'est pas au Togo. Ça dit que nos chefs ne peuvent pas se ridiculiser de la sorte. Je le dis et je l'assume. Parce que le chef traditionnel.
Mais c'est pas la première, parce que
oui, j'avais dénoncé également
les chefs de Belle.
Oui, d'accord, un quartier de Belle, là. C'est le chef est censé être neutre. Quand on parle de politique, le chef. Qui doit être une entité, une autorité transversale, est censé être neutre. ne se mêle pas de la politique. Il gère la cité que lui a confié ses congénères, ses concitoyens. Parce que le trône vient de son grand-père et arrière-grand-père. Et ce trône-là, c'est eux qui gèrent le village, le canton-là. Mais quand le chef se met, c'est vrai que les Français et le régime Gnassingbé, depuis il y a des mois, ont traversé les choses, mais on ne peut pas transformer un lieu de chute en un dortoir. Ce n'est pas possible. Ça me fait mal que mon pays fonce dans l'abîme. Parce que j'ai vu des gens avec des quêtés, notre peintre traditionnel, et des gens d'un certain âge, au-delà de 60 ans, qui maîtrisent les coutumes, les us et coutumes de nos milieux surtout élevés, et qui se permettent de dire qu'ils soutiennent la 5e République. Mais est-ce qu'ils ont besoin de ça? Certains chefs sont tombés bas. Le colon a manipulé. Le régime Yadema a manipulé. Et le régime de Faure continue pas à manipuler. Mais eux, ils ne doivent pas tomber dans cette bassesse-là. Parce que quand tu lis l'article même, ils disent quelque part que nous nous alignons sur le régime parlementaire et nous trouvons que c'est la meilleure d'ailleurs parce qu'on ne veut plus gaspiller de l'argent. C'est eux qui gaspillent de l'argent. En plus, ça continue en disant et dépenser de l'argent pour faire des élections présidentielles. De quoi je me mêle? Pascal, ce pays est dans un bateau qui se dirige droit vers l'iceberg. Parce que ça, il faut arrêter ça. Au Bénin, la dernière fois, j'ai lu une loi, c'est pas qui, toi si tu l'as lu, ils ont interdit à tous les chefs de mettre leur nez dans la politique. Il y a une loi qui est claire là-dessus.
Et je l'ai lu aussi,
et personnellement. Je peux comprendre aussi que notre loi ici, que le régime a fabriqué certainement en sa faveur, ne dit pas clairement aux chefs de s'impliquer dans la politique. Et le comble de tout ça, ça c'est un autre parallèle. Mais vous allez voir, tout est en bleu blanc dans pratiquement tous les quartiers. Et ça, même si on donne 1 milliard, moi je dis que ma couleur, c'est le bleu d'azur. Et je leur dis que nous, on avait aimé cette couleur avant même que l'UNI ne soit né. Et maintenant, aujourd'hui, après les chefs, c'est leur couleur dans les écoles, dans les hôpitaux, les gendarmeries, tout ça là. Tout simplement pour influencer l'électeur, que c'est la couleur dominante. Non. Le Togolais a dépassé ça. Nous, on cherche un changement, une alternance au pouvoir après 60 ans. Et on n'a pas besoin de se ridiculiser. Mais si c'est qu'ils étaient en veste français, je comprendrais qu'ils sont dans les CID manipulés. Mais c'est des gens qui sont habillés en quêté. Le chef Ashanti ne fera jamais ça. Le Moro Naba au Burkina ne fera jamais ça. Pourquoi c'est chez nous au Togo? Mais tous ceux qui sont au gouvernement, Faure Gnassingbé, tous nous allons mourir un jour. D'accord. Vous allez adorer
merci,
un régime Ambroise. Jusqu'à quand?
Merci Ambroise, merci pour l'intervention.
C'est triste.
Ma Black Inviteco, bonjour.
Bonjour à toi Pascal, bonjour confrère Ambroise et bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Canal FM qui nous suivent actuellement.
J'espère que vous allez bien.
Ça va pas la grâce de Dieu.
D'accord, ça va pas la grâce de Dieu. Oui mais Ambroise, c'est vrai que je voudrais qu'on commence cette émission avec ce sujet que je trouve à votre une, c'est-à-dire à la une de votre journal des Guadiens. Et vous parlez alors de la dégradation des routes, vous écrivez dégradation des routes, hâte au chargement hors gabarit, hâte à la violation des feux tricolores. C'est une interpellation.
Oui, c'est à notre manière de rentrer dans le jeu du civisme, de sensibiliser les usagers, surtout les gros porteurs, qui, de par leur malveillance, transportent des marchandises trop lourdes pour nos routes. Et ça dégrade la route, ça affaisse la route. Quand vous allez au niveau de l'église presbytérienne d'Agbalefé-Dogan, en allant vers la Hague, je ne sais pas si vous avez constaté l'affaissement de par endroit de la route, du bitume qui est fait là. Vous tombez même dans des ravins et vous remontez, c'est comme des vallées, des collines, des vallées, des collines. Comme la route de Cébé, quelqu'un en a fait une véhicule avec Hitler dedans, qui faisait grand mal comme ça. Au point que nous, on se dit que ceux qui transportent de lourdes marchandises, ils sont désormais contrôlés par un dispositif installé par la SAFER et le ministère des Transports pour réguler le poids des marchandises, des titans et autres engins lourds. Et nous nous disons que on ne peut pas être têtu au point que la route que vous, votre agent, vous titamone, ou le propriétaire n'arrivera jamais à construire, vous le dégradez. Et vous allez voir dans nos quartiers, avec ces histoires-là, c'est les camions de transport de sable, ceux qui transportent le ciment pour un dépôt dans un quartier qui vont complètement dégrader la route. Le cas de la route est à 4 demi. Quand vous arrivez à Ségué à la douane et vous contournez vers le CMS, mais les gens souffrent avant d'arriver là-bas. N'eût été la réhabilitation de la route de Ségué, une route bien rétrécie, pour ne même pas être praticable, cette route-là a été améliorée, ça fait 3 ans, mais ça a encore commencé. Donc, le dispositif hors gabarit permet de contrôler le poids des marchandises qui s'y trouvent dans le véhicule et de ne pas dégrader si vite que la route ne soit pas amortie avant l'échéance est donnée. Une route construite devrait au moins faire 20 ans avant de commencer par se dégrader. Et donc, il est important de préserver les routes, même s'il n'y en a pas tellement qui répondent tellement au nombre, parce que ceux qui doivent venir contrôler la faisabilité ou après la construction de la route sont aussi corrompus. Ceux-là qui ont pris aussi la route, celui qui a remis, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage aussi, est passé par là, alors que les gens s'efforcent pour mobiliser les ressources pour pouvoir construire la route. On a donné le cas de la route de Ségué, d'Anéron. Moi, je ne vais jamais permettre, me taire, quand un titan hors de gabarit passe sur cette route. Voilà. Quand vous allez à Ave Maria, ici, à Idogome, ici, vous allez voir la route du ministre, c'est Sani Yaya. Au début, j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Mais je l'ai compris. Ces camions, ils transportent des sables, du titan, tout ça là. Ils ont mis, là-bas, c'est un peu un gabarit, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est une barre de 3 mètres quelque part, ou 2 mètres 50, sous lequel aucun titan ne peut passer. C'est pour préserver la route. Je suis désolé. Et ceux-là qui passent par la route de Ségué, ils n'ont qu'à contourner par Nové. On leur a fait une route bien bâtie là-bas. La route, elle est ici. Elle n'est pas aussi aux normes que j'ai vu à Néron. Parce que quand ils ont commencé par la route de Palimé, ils ont dû faire quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on a fait. Nous, on subit ça aujourd'hui. Ils n'ont qu'à contourner à Ségué pour prendre la route de la CDAO et aller là où ils vont. Donc, je me dis que tu as bien fait de poser le problème. Nous avons besoin de routes, comme ce qu'on a fait au moins, même si ce n'est pas à 100% bien. Ils ont quand même réussi cette route d'Anéron-là, de le répliquer ailleurs.
D'accord. Ouais, Mabler, c'est vrai que nous avons besoin des routes, mais aujourd'hui, celles que nous avons et qui ont été réhabilitées même d'ailleurs, il faudrait que nous les préservons.
Non, je crois que c'est la main des choses et on le dit tout le temps. C'est cela même le sens du civisme et de la citoyenneté. Parce que n'oublions pas que l'État en lui-même ne fabrique pas de l'argent. Hein. On le dit généralement, le contribuable, mais je sais pas si les gens parviennent à comprendre le sens même du mot. Ça voudrait dire que le citoyen, même à la base, c'est lui le pourvoyeur de fonds pour renflouer les caisses, n'est-ce pas, du trésor public. Et c'est ça qui permet justement de construire les infrastructures qu'on a. Et ça voudra dire qu'il nous revient, si nous sommes conscients que c'est nous qui déboursons de l'argent pour qu'on construise des routes en notre nom, nous avons l'obligation et l'honnêteté intellectuelle, morale, et tout ce qui va avec te protéger justement ces acquis-là. Maintenant, il y a tout ce qui est norme. Les routes sont construites. Mais je vous dis, ce que Ambroise dit par exemple, il y a par exemple le règlement 14 de l'UMOA qui réglemente ça, et c'est pas aujourd'hui, c'est depuis tous les usagers de la route le savent.
Tout à fait.
Maintenant, moi je me pose la question de savoir, comment est-ce que vous pouvez admettre ou comprendre que vous tenez debout peut-être au bord de la route nationale numéro 1 vers Ngotien, et vous voyez des gros porteurs très surchargés avec un gabarit assez impressionnant, mais qui ont quitté Lomé ont dépassé les péages, les, tout ce que nous avons comme checkpoint pour arriver jusqu'à ce niveau de l'intérieur du pays. Et ça continue jusqu'au Grand Nord. Mais je me demande, est-ce que quelque part, quelqu'un n'a pas failli, n'est-ce pas, dans la chaîne de contrôle? C'est de ça qu'il est question. Sinon, tout ce qui est comme loi, juridiction, tout est déjà en place. Maintenant, s'il arrive que nous constatons au quotidien ces comportements indélicats ou qui ne sont pas empreints, n'est-ce pas, de civisme que nous dénonçons d'ailleurs, c'est parce que moralement, il y a des gens qui ont failli à un niveau donné. Et c'est pour cela que quelque part, quand on met les choses en place, il faut veiller également à avoir des garde-fous nécessaires parce que humain que nous sommes, l'humain est faillible, voyez-vous. L'humain est faillible, que ce soit le chauffeur, l'opérateur économique, l'agent de sécurité qu'on a posté quelque part sur la route pour veiller à ce que ce type de camion ne puisse pas passer avec de tels gabarits. Mais du moment où, voyez-vous, vous connaissez la faiblesse de l'humain, du moment où on laisse passer, mais toute la chaîne se laissera corrompue à la fin. Et c'est là où doit intervenir, n'est-ce pas, l'autorité de l'État. Parce que humains que nous sommes ne sommes pas au-dessus de la loi. La loi est censée être au-dessus de tout le monde. Et mais c'est les humains qui doivent donner la force à la loi. Et donc c'est une question d'interpellation. Il faudrait que chacun d'entre nous se convoque au tribunal de sa conscience. J'ai un pan de pouvoir que j'exerce, comment je le fais? Parce que je dois rendre compte à la fin. Et c'est en cela que nous aidons ce pays. Mais quand nous fermons les yeux sur des faits et gestes, parce que se disant peut-être que je trouverai quelque part pour moi-même, nous contribuons à affaisser l'économie du pays. Et ce n'est pas une bonne chose, parce qu'au-delà de notre personne, c'est la postérité qui en souffrira.
D'accord. Merci, Magloire. Et l'homme Kossi Atissoubi, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça va.
Voilà, merci. Nous sommes en train de parler de nos routes, la circulation. C'est vrai que quand vous rentrez dans la circulation, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, effectivement, il y a des actes inciviques également que vous allez retrouver. Tout récemment, il y a même un commissariat chargé de la sécurité routière qui a été mis en place. On pourrait dire que avec ce commissariat mis en place, quelque chose va changer par rapport surtout au respect du code de la route.
On l'espère. On l'espère justement. En fait, c'est une question de civisme avant tout. Vous savez, vous avez des gens qui surchargent leurs camions, vous avez des camions hors gabarit, ils savent que la circulation est normée et qu'il ne fallait pas dépasser un certain nombre de poids ou de tonnage par rapport justement à l'usage des routes. Mais les gens, vous avez des camions qui sont surchargés, vous avez des bus qui voilà roulent à vive allure, surtout sur la nationale numéro 1, alors que vous avez une signalisation routière, des gens qui ne respectent rien du tout en matière de respect du code de la route, et c'est quand même compliqué. Mais maintenant qu'on a voilà un commissariat qui va se charger de ça, moi je félicite d'ailleurs les agents de la DSR qui voilà sont stratégiquement positionnés dans la capitale ici et peut-être à l'intérieur du pays, qui régulent la circulation, qui contrôlent l'assurance, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de véhicules encore qui ne sont pas à jour d'assurance, le permis, l'assurance, la carte grise, etc. Mais on constate aussi qu'il y a des camions qui ne sont pas à vue d'œil, qui ne peuvent pas être autorisés à circuler, mais qui circulent. Des camions avec des plans inclinés, des camions avec les plateaux à part, la tête est ailleurs, les plateaux sont ailleurs, mais c'est des camions qui circulent, surtout sur la nationale numéro 1 et puis sur d'autres nationales. C'est extrêmement compliqué. Donc on va appeler d'abord au civisme de toutes les Togolaises et de tous les Togolais par rapport justement au respect du code de la route, c'est très important. Et voir aussi ce qu'on appelle tricycle. Il faut que, au niveau de l'État, il faut que la direction de la sécurité routière, la division de la sécurité routière, regarde avec un grand intérêt cette affaire de tricycle. Il y a des tricycles qui sont aujourd'hui des tricycles dépassés. Vous avez des tricycles qui, à vue d'œil, c'est un amas de ferraille. Et vous avez des tricycles qui sont, oui, neufs, mais qui surchargent. Voilà, inexorablement, vous avez des sachets de piwata, vous avez un conteneur qui se trouve dans un tricycle, Parce que la personne qui est en train de déplacer. Mais comment vous pouvez mettre ça?
Mais le pire des fois, c'est que ces tricycles surchargent même des hommes.
Oui, hommes, conteneurs, mais vous allez voir, animaux, mais comment vous pouvez mettre des choses comme ça dans un tricycle? Mais ça n'a pas de sens. Et donc, moi, j'aurais aimé que cette affaire de tricycle, qu'on puisse à un moment donné trouver une solution. Je ne dis pas que, bon, ça aide, vous comprenez, ça aide. Il y a des tricycles qui aident, mais ça dit que la circulation n'est pas normée, quoi. Vous avez des jeunes qui, je ne sais pas ce qu'ils boivent, je ne sais pas ce qu'ils fument, mais quand ils prennent le tricycle, ils ont l'impression qu'ils veulent décoller un avion. Non, mais franchement, mais ils mettent le gaz, bah, et puis vous allez en circulation, vous avez des gens qui filent à vive allure. Vous êtes au feu rouge, vous avez des gens, des conducteurs de tricycles, il est devant, il klaxonne, pipi, et un peu comme il était un véhicule 4 roues, quoi. C'est pas normal. C'est le poids d'un véhicule, le poids total autorisé en charge d'un véhicule classique ne peut pas être comparé à un tricycle. Et puis, c'est le tricycle avec son gabarit, c'est avec ce tricycle-là, il veut se faufiler entre les voitures. Comment vous pouvez prendre un tricycle pour faire un slalom entre les voitures? Et c'est comme ça qu'ils égratignent des voitures. Et après, vous voyez des jeunes qui sont couchés à même le sol, qui pleurent que non, qui ne savent pas avant de... Et vous demandez, mais ce qu'ils boivent, ce qu'ils fument, quoi. À un moment donné, il faut que l'État régule cette affaire de tricycle.
D'accord. Deuxième sujet aujourd'hui, vous intéressez Flambeau des démocrates, vous intéressez au décès alors du pape, et ce décès qui est intervenu le lundi dernier, vous écrivez juste à la page 5, et c'est ce que vous mettez également à la une de votre journal, merci. Et vous mettez également la photo alors du pape. Il y a également d'autres journaux qui s'intéressent bien sûr au sujet. Il y a Ambroise, vous écrivez « Décès du pape François, qui sera le prochain pape ?» Voici les cardinaux dont les noms circulent. Et autre journal, c'est La Lanterne, le journal La Lanterne qui revient également sur le sujet. Le journal écrit « Mort du pape François, prochainement un noir à la tête de l'église catholique ?» Et s'interroge bien sûr le journal. Autre journal, et c'est le journal Correspondant qui écrit « Succession du pape François, et si le prochain pape n'était pas celui qu'on attend ?» Et le journal s'interroge aussi. Mamoula, alors oui, quand on voit justement, on voit l'actualité par rapport à ce qui concerne le décès alors du pape aujourd'hui, dans la tête alors de beaucoup de personnes, c'est la question qui se pose, c'est qui sera le prochain pape?
Oui, non, mais je crois que ça fait partie du secret, n'est-ce pas, du collège des cardinaux qui ont la légitimité, n'est-ce pas, de se retrouver en conclave pour élire le prochain pape. Mais toujours est-il que on ne devient pas pape comme cela qui veut, hein, mais c'est tout un parcours. C'est tout un parcours qui, dont le couronnement est cette consécration-là. Mais toujours est-il que il y a un gotha de cardinaux qui sont déjà là. Et c'est parmi eux que l'Église aura, n'est-ce pas, à choisir son prochain souverain pontife. Mais ce qu'on peut dire, c'est que même quand vous voyez un peu le parcours du regretté pape François, il n'était pas du tout attendu. Il n'était pas du tout attendu, et beaucoup, même à son élection, on va dire en 2013, se disaient qu'il ne fait pas pape. Parce que quand vous voyez un peu son parcours, n'oublions pas qu'il est le premier pape à venir de la zone latino-américaine.
Tout à fait.
Il était le premier pape à laisser de côté tout ce qui est, entre guillemets, du bling-bling, parce que il se veut un pape très modeste, et sa vie a été toujours comme ça, très modeste, très sobre. Et même, vous allez voir, depuis 2022, il a laissé un testament qui a été dévoilé tout récemment. Nous avons déjà, d'ailleurs, même publié le testament dans notre journal. Lorsque vous lisez le testament, vous comprendrez aisément la dimension dans laquelle était l'homme. Et il a même dit qu'il préfère être enterré dans une certaine sobriété. Vous voyez même le cercueil. Souvent, le cercueil des papes, c'est des bois vraiment de haute qualité avec une couverture en cuivre ou en or, et enfin, en fer, Mais lui, quand vous voyez un peu le cercueil, c'est quoi? C'est du velours qu'on a fait et puis ça s'arrête là. Et donc, c'est pour dire que quelque part, si Dieu t'a choisi et que c'est ton destin, forcément, le choix tombera sur toi. Aujourd'hui, le débat est que, après plusieurs décennies, est-ce qu'il n'était pas temps, vu le niveau de la croyance des Africains, est-ce que le niveau n'était pas, il n'était pas temps, justement, que le prochain pape soit africain? Moi, en tant que, africain et en tant que chrétien, et surtout catholique, c'est mon vœu le plus absolu. Mais, ce n'est pas, le souhait, mon souhait qui sera fait, mais je présume que c'est l'Esprit Saint qui guidera les cardinaux, et quand ce moment-là viendra, et que si ça tombe sur un Africain, mais pourquoi pas? Mais toujours est-il que si c'est un Européen, un Latino-Américain, un Asiatique, l'essentiel est qu'il soit le souverain pontife qui fera la volonté, ou du moins qui amènera le bateau catholique à bon port, parce que vous allez constater que le pape François a initié, n'est-ce pas, une série de réformes au sein de l'Église catholique qui nécessite d'être poursuivie. Ce n'est pas un secret de le dire. L'Église catholique fait partie de ces religions assez dogmatiques où même pour bouger un seul pion, ça nécessite assez de temps. Mais il a eu le courage nécessaire d'imposer des réformes. Même quand je vous dis que même la banque du Vatican, lorsqu'il a décidé d'entamer des réformes au niveau du fonctionnement de la banque, il est arrivé qu'on a fermé au moins un tiers des comptes. Ça voudrait dire qu'il y avait des comptes virtuels qui nourrissaient des gens. Et pourtant, pas de l'Église quand même. Donc, c'est pour dire que, au-delà de tout, il faut avoir des qualités, il faut avoir une certaine moralité pour mener à bien ce grand bateau qu'est l'Église catholique. Et je crois savoir que l'Esprit Saint guidera les cardinaux et que le moment viendra où on annoncera au monde entier avec nous, papa. On aura celui-là qu'il faut à la place qu'il faut.
Oui, mais Ambrose, oui, si tant est que c'est l'Esprit Saint qui dirige les cardinaux, a choisi le pape, est-ce qu'il n'est pas temps que l'Esprit choisisse aussi un noir pour être pape?
Ta question m'a fait rire, parce que, bon, en fait, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on t'entend nous dire que c'est l'Esprit Saint. Mais je vous dis aussi qu'il y a des hommes.
Dieu est dedans. Mais l'esprit passe surtout par des hommes pour le faire.
Oui, mais après tout, c'est les hommes qui votent. Et si, entre-temps, un des cardinaux, ou deux ou trois, a péché avant de rentrer dans ce conclave, je crois pas que ce soit l'esprit c'est encore qui le guide pour pouvoir choisir un pape. Surtout des moins de 80 ans. Et ce qui est intéressant, Magloire l'a dit, d'abord le pape François est originaire de l'Amérique latine. Et bizarrement, certains de ses compatriotes n'ont pas aimé le fait qu'il ne soit jamais venu en tant que pape chez eux là-bas depuis qu'il est élu, ça fait 12 ans. Bon, ça c'est entre eux. En plus, il est dit qu'il est un pape progressiste, et on a constaté effectivement que c'est un pape progressiste qui aime les pauvres. Progressiste dans ce sens, dans un sens un peu bizarre, l'homosexualité, il a béni même un couple au Vatican, ce que nous autres qui sommes des conservateurs chrétiens, on n'a pas aimé. Mais c'est entre lui et son Dieu. Parce que moi, je me rappelle de Sodome et de Gomorre. Parce que c'est des actes qui existaient depuis les temps immémoriaux, depuis Matthieu Salem. Et que y a certains, surtout en Afrique, qui n'ont pas aimé ça. Maintenant, progressiste aussi dans le sens de voir les couches pauvres évoluer. Et aussi, il n'aime pas trop les conflits. Il a répété quand il était au Congo, le pays africain le plus peuplé en termes de catholiques, c'est comme les pays musulmans, c'est en Indonésie. Le Congo Kinshasa est le pays catholique le plus peuplé. Et donc, il a dit clairement que ceux qui pillent le Congo et l'Afrique, ils n'ont qu'à quitter.
Il déclarait même ôter vos mères lors de la RDC.
Oui, il sait de quoi il parle. Parce que le Vatican est l'État qui est le plus renseigné au monde, à part Israël. La Russie et les États-Unis, c'est l'État le plus renseigné au monde. Donc, ils savent de quoi, ils savent de quoi ils parlent. Maintenant, revenons à la question du pape en question, celui qui doit être désigné dans ce conclave de 20 jours, parce que c'est samedi, on fera les funérailles, il sera inhumé.
Tout à fait.
Maintenant, on va décompter jusqu'à ce que les 20 jours finissent, depuis son décès, pour qu'on puisse trouver un pape. Vous savez, dans le lot de ceux-là qui ont été pressentis, il y a une quinzaine. Hein. Il y a des... On parle aussi d'un Français. Et pour le Français n'est pas sérieux. Il faut le mettre dans un, dans un vase quelque part.
Non, vous êtes pas comment ça, il n'est pas
sérieux. Je laisse là. Je laisse là. Puis je, on n'a qu'à déployer ça là-bas.
D'accord, vas-y.
Américain, il y a des New Yorkais. Il y a d'autres Américains. Tout ça, là, c'est bling bling. Mais non, il y a quatre Italiens. Parce que c'est, depuis qu'on a créé cette écurie-là, c'est les Italiens qui sont souvent des papes. Ils sont de 200 combien 276, quelque chose comme ça. Les Italiens ont fait 90%. Mais non, c'est les réformes qui ont amené à ce que d'autres origines aussi puissent devenir papes. On a connu avec Karol Wojtyła, le Polonais, Jean-Paul II, qui est venu ici en 86. Je me rappelle très bien, il a pris même... comment on appelle la pirogue à Togoville là-bas. Nous, on était au CM2, je crois. Bon. Et il y a aussi l'autre là, Ratzinger, lui, il est européen. Allemand. Il est allemand, que j'aime bien, parce qu'ils sont des... Ça, c'est comment on dit ça? C'est des fondamentalistes. C'est des... Pas, je ne dirais pas radicaux, mais c'est des conservateurs du régime de l'Église catholique. Il semble qu'il n'a pas aimé certaines choses. C'est pourquoi il a dû vider les planchers. Et à part ça, c'est l'Argentin qu'on a amené, qui est aussi, qui fait partie aussi des pauvres, vous voyez. Maintenant, l'Église africaine catholique, qui fait le tiers pratiquement de tout, pas le tiers, mais quelque chose comme ça, mérite aussi de devenir un pape. Mais moi, il y a un point sur lequel les gens n'insistent pas. Le racisme est là. Le racisme dont on parle là.
Dans ce domaine
quand,
aussi.
Quand on parle de ça, oui, quand on parle du Saint-Esprit, on dit qu'il y a les hommes. Le racisme est là. Le racisme est partout. Hein. Quand on parle d'Occident, là, il y a des choses, eux, ils ne ménagent pas. C'est vrai qu'entre eux, curés, évêques, tout ça, là, il n'y a aucun souci. Mais on veut choisir quelqu'un qui veut diriger le monde. Diriger le monde dans le sens religieux. Parce que, nous, moi, je suis protestant, je ne suis pas catholique. Mais, je respecte les catholiques, j'aime les catholiques, parce qu'ils sont des chrétiens aussi. Même, quand vous jetez un coup d'œil, vous allez comprendre que le Vatican, quand tu lis, il y a certains quand tu lis, tu comprends que le Vatican est transversal à tout ce qui est puissance occidentale. Bien sûr. Il agisse partout.
L'État le plus
renseigné au monde, c'est ce que je viens de dire. Et donc, vont-ils laisser choisir un noir? Tuxon, par exemple. Tuxon, il est ghanéen. Parmi les papes, les cardinaux africains, c'est lui-même qui est proposé être en vue. Le journal des Times à Londres est revenu sur ça, qu'il est temps qu'un Africain devienne le pape. Et les Anglais, ils ont été clairs. C'est les gens, eux, c'est les gens que j'aime bien. Ils ont été aussi des esclavagistes, des colons, tout ça. Mais c'est des gens que je trouve réalistes et plus aimables que d'autres occidentaux. Et ce journal-là a été clair. Donc, tu sonnes là en bongo de la RDC aussi. Et là, il y a aussi un Guinéen, Sarah, mais qui approche les 80. Forcément, d'ici juin, il ne sera plus parmi les votants. Et donc, quand vous fouillez, vous comprendrez que le parcours de ces gens-là, nous avons dans notre genre de Guardian, le parcours, quand vous voyez, ils peuvent devenir pape. Ça y est, c'est des gens qui sont chevronnés, qui sont robés, certains même qui sont polyglottes, ça y est, qui parlent plusieurs langues. Donc, dans la première, c'est le latin.
Justement, puisque
tu ne peux pas être fada ou tout ça là, de ne sans parler le latin.
Ils sont tous polyglottes.
Et donc, voilà, généralement, ils sont tous polyglottes. Moi, trois langues. Français, anglais, italien et latin en premier, ils sont là.
Tout à fait.
Et donc, aujourd'hui, nous, on se dit que nous sommes des laïcs. Hein. On se dit que ils n'ont qu'à... Abemus Papa, dont on parle avec la fumée blanche là. Ils n'ont qu'à aussi choisir un pape noir. le pape noir ne va rien me donner ici. Mais l'Afrique a besoin, l'écurie ou le Vatican a besoin d'un pape qui connaisse les réalités du monde, l'Asie du Sud, l'Asie mineure, l'Asie centrale, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Ceux qui vivent là-bas, c'est la majorité des pauvres, mais qui sont riches, en fait.
D'accord. C'est vrai qu'on a vu un pape François qui est si proche des pauvres. On l'a même surnommé pape des pauvres, bien sûr. Et parce que il s'est attaché également à l'Afrique par rapport même d'ailleurs à cette déclaration politique. Vous avez écouté quand il parlait même de la RDC, il demandait aux gens, aux puissances dotées, leur mais alors de la RDC. Il disait également que l'Afrique n'est pas une mine à explorer. Donc, tout cela, est-ce que quand on va choisir un Africain maintenant, l'Esprit Saint va choisir un Africain puisqu'il faut insister là-dessus, est-ce que ça veut dire que l'intérêt de l'Afrique serait en vue?
Bon, normalement les déclarations du pape ne doivent pas être prises à la légère, normalement, mais on s'est rendu compte que malgré les déclarations du pape, malgré ses prises de position, il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées, et puis on a l'impression que les puissances où les pays, les institutions internationales ne tenaient plus compte hein, de cette voie spirituelle, de cette voie imposante à travers le monde par rapport à certains de problèmes à régler, de crises. Et aujourd'hui, c'est vrai que toujours, hein, si on fait un débat sur peut-être le prochain président de la France, on va vous dire quel est l'intérêt pour l'Afrique. Et là, maintenant, on parle du pape, prochain pape, il y a un débat pour dire oui, qu'est-ce que l'Afrique aura à y gagner concrètement, etc. Que ce soit un pape qui quand même tienne compte des intérêts de l'Afrique, ça c'est ce qu'on souhaite, parce qu'on a vu que le pape François, paix à son âme, a quand même manifesté un intérêt. Par exemple, il a fait 5 visites en Afrique, dans la dernière, je pense, en RD Congo, où il a fait une déclaration choc, et que tout le monde retient d'ailleurs. Donc, c'est quand même très important de le souligner, parce que justement, le pape reste, on dit le Saint-Pape, il reste ce qu'il est dans le monde.
On parle même de souverain,
pontife. Oui, à cause justement de l'autorité qu'il incarne. Et donc, il serait souhaitable qu'il puisse, depuis sa position, depuis le Vatican, je vais dire, manifester un grand intérêt pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a plein de conflits sur le continent, et quand vous prenez le pays le plus, le pays qui a le plus de chapelles catholiques en Afrique, l'Arrée des Congo, vous avez quand même à chaque kilomètre carré une chapelle catholique. Quand vous prenez par exemple ce pays-là qui est en guerre avec Kigali, le Rwanda, je crois quand même qu'il y a quand même le clergé qui essaie de faire de son mieux, mais je crois que ça fait partie de l'un des prochains défis du pape, parce que c'est l'ère de Congo, c'est pas un pays à négliger en Afrique en ce qui concerne le christianisme, il faut le dire. Donc il aura du pain sur la planche, et ensuite regardez aussi au niveau de la lutte contre la pauvreté, les apports qu'il pourrait également faire, et en ce qui concerne la paix, la promotion de la paix, la prévention des conflits sur le continent, c'est très important. Donc on attend de voir tout ça, mais on a des noms qui circulent, on a 4 ou 5 noms qui circulent déjà. Bon, de toutes les façons, il n'y a que le conclave qui pourra dire avec exactitude qui est le prochain pape. Et je rendez-vous dans, je crois, 15 jours minimum, 20 jours maximum.
D'accord. Oui, mais alors, je reste toujours avec toi hein, pour parler énergie. Et puisque vous en parlez, bien sûr, énergie électrique, bien sûr, vous en parlez à la une de votre journal. Vous écrivez « Togo, le coût de l'électricité parmi les plus élevés ». Alors, ça devient un constat. Les consommateurs vous diront même d'ailleurs que le coût de l'électricité est élevé au Togo, c'est ça?
Oui, c'est ça. Vous savez, c'est pas nous qui le disons, c'est pas une invention de notre journal. On est parti vraiment du livre blanc 2024 publié par l'Association des grandes entreprises du Togo, avec des données claires et précises sur des pays dont le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, avec les indices AFI-SAID, ensuite avec la consommation, la source principale de consommation, énergie thermique ou hydraulique. Donc on a quand même republié le tableau, on a fait des analyses et ensuite on a fait cas des commentaires. Donc c'est très important de pouvoir de temps à autre faire ce benchmark pour permettre justement au pays de savoir exactement où ils en sont en ce qui concerne la consommation d'énergie, pas seulement de l'énergie, mais en ce qui concerne la consommation même en général. Vous avez vu qu'au niveau de l'ARCEP, le travail qui se fait par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile en ce qui concerne la consommation d'internet, de données, d'appels, etc. On dit que le Togo fait toujours partie des pays avec des coûts élevés en matière de téléphonie mobile et de consommation d'internet. Donc c'est la même chose aussi avec le domaine de l'énergie aujourd'hui. Même s'il y a des efforts qui se font au niveau justement des centrales solaires, on a quand même beaucoup de centrales solaires aujourd'hui. On a d'autres antennes relais, d'autres entreprises relais comme Kelly Efficient Power qui essaie aussi d'apporter son plus contour global, etc. Mais on constate justement qu'au niveau du prix final du kilowattheure en moins de tension, selon le livre blanc de la JET, les coûts sont toujours élevés dans la sous-région.
D'accord. En bref, est-ce que vous arrivez à comprendre quand même cela où il y a des efforts qui sont faits pour que qu'il y ait l'accessibilité même d'ailleurs de ces énergies au niveau alors du gouvernement, mais au même moment quand on voit le coût surtout alors de certains produits et même d'ailleurs de l'énergie électrique, le coût est élevé. Tandis que quand on prend le revenu même d'ailleurs du Togolais, allez, il y a également ce revenu qu'on estime toujours bas.
Non, c'est pas bien que le coût de la facture d'électricité soit encore élevé. Les Togolais en souffrent déjà dans la main de l'ETR, dans la main de tout ce qui est taxe, je vais être clair. Et je crains même que ce soit l'ETR qui encore menace et cherche des taxes là-bas. Et on nous taxe à travers les factures.
On n'ose pas vérifier.
Ce n'est même pas la peine de vérifier, parce que c'est ça. Tout l'éventail, c'est-à-dire que l'élargissement même de l'assiette fiscale tue le Togolais. Je vais déposer là-bas et revenir à la société même. Le mardi soir, entre 20h45 et 3h du matin, ce que nous avons vécu à Ségbé, à Kato, moi je n'ai jamais vécu ça de toute ma vie. La chaleur, on me dit souvent que la chaleur tue. C'est le soir là que j'ai remarqué effectivement que la chaleur peut tuer. J'ai été à Mango, j'ai été à Dapaon, je ne suis jamais allé au Niger, mais ce que, et tous dans le quartier, ceux qui sont à Kato et Ségbé là, demandez-leur quand on a coupé l'électricité. On se demande, eux-mêmes ils ont sorti un communiqué que la chose s'est améliorée. Mais qu'est-ce qui fait encore on a coupé? J'ai appelé 6 fois le 82-28. Ils ont tenté d'expliquer qu'il y a un mécanisme qui fait chuter le truc là, et ça, quand ça monte, il faut qu'on débranche nos appareils, parce que quand ça monte comme ça, ça peut griller les choses, ça peut aussi s'abaisser. Et ça ne prévient pas. Et aujourd'hui, j'ai compris que la CET manque des techniciens. On va revenir sur ça. Mais ce qu'on a vécu la nuit là, on est retourné à la douche au moins 4 fois. Et bizarrement, j'ai un ami que j'ai appelé. J'ai une soeur aussi que j'ai appelé, dit, mais tout le monde s'est revenu. Il y a les moustiques dehors, tu ne peux pas être dehors. Tu ne peux pas non plus être dans la chambre et ouvrir ta porte comme ça. Ce n'est même pas possible. Et bizarrement, il n'y a pas le vent. C'est la pluie là. C'est la pluie de 3 heures du matin là qui nous a sauvés. Mon frère, la CET, si on avait des Kalachnikov et des missiles, c'est la CET qui devait l'avoir en premier. Parce que, non, je ne sais pas ce que tu as vu ça, non?
On est dans le même quartier.
Non, la coupure là n'est pas, c'est pas tout le mec qui... C'est dans la zone seulement. Mais il y avait... J'ai compris que la pluie voudrait venir. Donc, la pluie a laissé une chaleur. Cette chaleur, on peut même atteindre 40-42. Malheureusement, on est dans la nuit. Sinon, on allait prendre le temps pour mesurer. C'est-à-dire qu'on peut se tuer dans cette chaleur-là. Que la CET nous fasse grâce de couper l'électricité la nuit. Ce n'est pas possible. Supposons que la nuit, vous coupez les voleurs viennent chez vous à la maison. On ne souhaite à personne. Mais c'est une éventualité. C'est vrai que moi aussi, en plein pluie, les voleurs peuvent venir. Mais si la lumière, on peut voir. Beaucoup n'ont pas les lampes de secours qui font 2 ou 3 heures. On n'a pas ça. Même les bougies. La bougie a brûlé une femme dans son... le moustiquaire là. Elle a brûlé, elle est morte, elle est décédée comme ça. Parce qu'on a coupé l'électricité pendant une journée et ils étaient obligés d'aller acheter les bougies. Les bougies ne font pas bon ménage dans les maisons. Et donc aujourd'hui, je comprends que la société a des difficultés à ramener ces techniciens-là, les anciens techniciens-là. Je leur envoie des fleurs parce que il faut que la société ramène les anciens techniciens. Parce que j'ai investigué, j'ai compris que les techniciens qui sont là, c'est des jeunes. Mais les vieux, là, ils maîtrisent chez nous, on dit, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent ce qu'on appelle les éclairs. C'est une façon de dire qu'il y a de bons électriciens que la société avait il y a de cela 15-20 ans.
Des bons
techniciens. S'ils sont là, oui, s'ils sont là, on est allé ramener. Leur faire des contrats de 2 ans, 3 ans. Parce que quand plus petit, il suffit que les milieux se forment là, la société coupe. Parce que la société ne veut pas de problème. Il suffit que vous voyez des éclairs, et ils coupent en même temps. Parce qu'ils ne veulent pas des problèmes. Non, on ne peut pas
je ne crois pas que ce soit la même chose au Ghana et en France.
Merci.
Ici, nous sommes au Togo. Nous vivons, c'est vrai, dans un pays qui est riche, mais pauvre. Mais ce que, le minimum de 8 millions d'habitants n'a pas besoin de souffrir sur l'électricité et en plus d'être taxé. Pour rien du tout, tu vas payer 10 000 francs pour l'électricité. Ce que tu payes 2 000 francs au Ghana, tu payes 8 000 francs, 10 000 francs ici. C'est pas normal.
Merci, Ambroise. Oui, Magloire, c'est vrai, l'information est là, le coût de l'électricité est parmi les plus élevés. Mais au même moment, quand on voit le coût de la vie, ça devient cher également chez nous.
Non, mais tout est cher pour le Togolais. C'est pas aujourd'hui qu'on le découvre, hein. Le Togolais a été ce parent pauvre de la sous-région depuis un bon bout de temps. Et tout le temps, on le dit ici, il n'y a pas que l'électricité, il y a le gaz, il y a quoi? Il y a les mégas, l'Internet. Presque tout est cher dans notre pays. Mais la réalité, c'est pas la cherté qui pose problème. Parce que c'est une question de nivellement. Si la réalité est que si la vie est chère, tout ce que nous citons, c'est cher. Et que, parallèlement à ça, le citoyen togolais a une bourse qui lui permet de tout supporter.
C'est-à-dire le pouvoir d'achat est élevé.
Le pouvoir d'achat est élevé au proportionnel ou à la proportionnelle ou au prorata de ce qu'il y a comme consommation. Je crois que le problème ne se poserait pas. Mais à ce jour, c'est que la balance est tellement déséquilibrée que ce que nous dépensons est plus énorme que ce que nous avons comme acquis. C'est ce qui fait que tout ce poids se repose sur le pauvre Togolais que nous sommes. Et donc, maintenant, la question qu'on se pose, c'est que, au-delà de tout, pourquoi tout ça est cher chez nous et qu'on n'arrive pas à permettre aux citoyens ou aux travailleurs togolais d'avoir une bourse qui lui permet de supporter les charges de ses dépenses. Moi, c'est toute la question qui est là. Et je crois que les personnes qui sont mieux placées pour répondre à ça, c'est les gouvernants. C'est les gouvernants. Il n'y a pas longtemps, on faisait un débat ici sur la cherté du gaz.
Oh ouais.
Il y en a
publié plusieurs fois.
Voilà, il y a des études qui ont prouvé que au Togo, le gaz est plus cher que dans les autres pays. C'est vrai que Elon aussi avait fait une étude scientifique là-dessus, nous a révélé les résultats. Qu'est-ce qui a amené à ça? Mais toujours est-il que citoyen que moi je suis, je souhaiterais aussi que je paie le gaz à prix bas, par exemple.
Le tout scientifique là de l'homme dans une poubelle
en attendant. En réalité, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que, citoyens que nous sommes, notre prière, c'est que.
Il faut diminuer les coûts.
Citoyens que nous sommes, on ne peut que souhaiter ça. C'est-à-dire que les gouvernants puissent tenir les mallettes ou les manettes du pays de telle sorte que nous ne souffrons pas assez. Maintenant, si moi, Togolais, je suis ici et que j'entends que le citoyen burkinabé paie le gaz à un prix très moins cher, j'ai le droit de me poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Quelle politique ils ont mise en œuvre pour que ça ne puisse pas être trop lourd pour le consommateur final? Puisque c'est ça l'idéal. Le pays, il est là. On a des ressources qu'il faut. Il y a le port. En tout cas, on ne fait que chanter tout ça tout le temps. Nous avons les phosphates, les minerais sont là. La réalité, c'est que le vrai sens de la politique, c'est de gérer l'affaire commune pour l'intérêt public, l'intérêt national. Maintenant, quand ça est comme ça, tout le Bataclan est là, tout le potentiel est là, mais que le citoyen se sente ne pas bénéficier de ça, c'est ça le problème. Et donc moi, j'estime que tout ceci, tout le débat que nous faisons, ça nous amène tout simplement à une exhortation des pouvoirs publics. On sait qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire, mais la réalité, c'est que l'attente est grande au niveau de la population. L'attente est vraiment grande, parce que voyez-vous, quand vous voyez un peu, vous lisez dans les consciences des gens, vous allez vous rendre compte que le citoyen est devenu plus aigri, plus frustré, moindre chose. On se chamaille.
Est-ce qu'il faut aller jusqu'au niveau de la conscience ou lire dans la conscience, dans le visage?
Ou absolument, c'est tout ce que je voulais dire. C'est-à-dire que tellement on est crispé que moindre chose, on est emporté, alors que ça ne devrait pas être le cas. Et quand vous posez la question, citoyen togolais, mais on va vous doiter directement à la gouvernance politique. Et c'est de ça qu'il est question. Mais le problème ou le drame, c'est que quand vous évoquez très souvent ces aspects, c'est qu'on pense que vous, certains, vous êtes contre les dirigeants. ou bien vous n'aimez pas la tête de M. Fornia Singbi. Moi, je dis non. Ceux qui aiment vraiment M. Fornia Singbi doivent être à même de lui dire que M. le Président, d'ici là, c'est bon, mais à partir de là, ça ne va pas. Il faut essayer de faire en sorte que vous trouvez une solution au Togolais. Mais quand on est là, dit tout le temps au chef de l'État, Monsieur le Président, tout va bien, mais c'est que c'est normal que lui peut prendre ceux qui disent le contraire comme ceux qui ne l'aiment pas, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et donc, nous, notre métier ici, en tant que journaliste, c'est que notre particularité, c'est que nous sommes issus de la masse. Nous vivons les mêmes réalités que tout le monde. Peut-être, moi, je n'ai pas un bon de carburant, ma petite pauvre moto. J'ai peur le carburant. Mais les ministres, tout ce qu'il y a comme directeur, les cadres de ce pays, ils ont les bons de carburant. Et donc, ils n'ont pas les mêmes coûts. Il y a même un débat sur la subvention des produits à la pompe. Mais je peux vous assurer qu'en réalité, c'est une autre supercherie sur laquelle on va revenir avec le temps. Parce que le carburant soit cher ou pas, c'est au même prix que le ministre aussi l'achète. Et c'est au même prix que les citoyens, le pauvre agriculteur l'achète. Et c'est pas normal. Et donc je pense qu'il y a tellement de nivellement ou de réajustement qu'on doit faire pour que, à la fin, que le consommateur final, le citoyen lambda, puisse être heureux de s'appeler Togolais et vivre dans son pays.
D'accord.
On peut pas. À un moment, en 2013, le pape était allé sur l'île de Lampedusa. Mais il a crié que pourquoi on doit pourchasser ces pauvres Africains qui fuient des situations difficiles, qui ne sont qu'à la recherche du bonheur. Alors que le bonheur, on peut se le trouver aussi. Mais pourquoi nos dirigeants gouvernent et parallèlement à ça, jeunes Africains maintenant, son idéal rêvé, c'est de parvenir à franchir nos frontières pour aller à Yaoundé ou je ne sais pas où. Alors que se taper le bonheur chez nous ici. C'est une appellation. Nous disons, si nous aimons vraiment nos dirigeants, on doit être capable de leur dire ce qu'ils font de bien, mais surtout ce qu'il reste à faire pour que la population soit heureuse d'être, enfin, d'avoir des dirigeants qui sont conscients de la situation.
Merci, Madouar. Et même, on va aborder un autre sujet. C'est ce sujet-là que j'évoquais déjà mes mots introductifs concernant les trois médecins assermentés qui sont désignés pour valider l'aptitude des candidats au poste de président de la République et de président du Conseil des ministres, puisque depuis un temps, il y a ce processus, même d'ailleurs, de la mise en place de la 5e République qui est en cours. Et ces médecins ont prêté leur serment le mardi dernier devant la Cour constitutionnelle à Lomé. On pourrait dire que c'est dans l'ordre normal des choses, mais et que déjà sous peu on pourra avoir le nom même d'ailleurs du président de la République et aussi du président du Conseil des ministres. Mais peut-être que déjà quand on prend le cérémoniel du 27 avril. Déjà, quand on prend le programme et tout, on comprend que d'ici au 27 avril, on ne pourra pas avoir le président de la République et aussi le président du Conseil des ministres.
Non, je crois que ça va, en toute vraisemblance, on va jusqu'au 6 mai. On a jusqu'au 6 mai pour connaître les deux noms. Donc, on est là. On est en train d'observer aussi. C'est vrai que selon les textes, le président du Conseil des ministres est déjà connu, parce que c'est le président de la majorité parlementaire. Donc, si on prend les textes, on peut savoir exactement qui est le président du Conseil des ministres. On prend juste les textes. Maintenant, le président de la République, on ne sait pas exactement qui c'est, puisque c'est les deux chambres qui vont se réunir, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui vont se réunir pour élire le président de la République. Donc, on est là jusqu'au 6 mai. Mais bon, je crois qu'on n'a plus de spéculation à faire sur quel sujet que ce soit. On croise juste les bras pour savoir exactement qui sera PCM et qui sera PR.
Oui, qui sera PCM et qui sera PR. Mais toujours est-il que... Ambroise, est-ce que ça intéresse les Togolais?
Non, ça n'intéresse personne. À part les 500 personnes dont je vous avais parlé la semaine dernière, là. Ça n'intéresse personne parce que vous avez remarqué que la 5e République, on a l'impression qu'elle est vomie. En plus, les chefs traditionnels qui sont rentrés dans la danse, ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème qui se pose, c'est que les gens sont vraiment indifférents. Donc, ils sont obligés d'aller voir les chefs traditionnels. Vous aussi, il faut faire, on va voir. C'est Adjumovic qui était là, qui a pris le bâton. Entre-temps, ça n'a pas marché. Et ça veut dire qu'ils ont renversé la chose. Ça veut dire que ce qu'ils devaient faire en amont, ils n'ont pas fait. Vous n'êtes pas allé au référendum. Maintenant, vous voulez venir vers le peuple pour expliquer ce qu'il y a déjà commis comme faute grave ou faute lourde. Maintenant, concernant ceux dont vous parlez, qu'on va prendre quelqu'un là, même si c'est un mourant, les médecins dont vous parlez là, tu penses que dans ce pays, de fond de la CB, un médecin va hasarder à dire que ce mourant-là, lui, il peut devenir président. Il suffit qu'on lui envoie le nom, lui, il doit aller, il tamponne. Ah, il tamponne le cachet, c'est fini. Donc, nous, notre problème n'est pas là. Notre problème, c'est que ce régime, avec tout son contenant, la constitution, les tenants, tout ça, là, sont rejetés par le peuple togolais. Et donc, tout ce qui est rejeté par le peuple, nous, on ne peut pas cautionner ça.
Mais vous n'êtes pas le porte-parole du peuple togolais, Ambroise.
Non, nous sommes des journalistes, nous investiguons, nous enquêtons, nous voyons la réaction des gens. Ne serait-ce que comme les gens, on fait souvent les sondages avec les échantillons, mais personne, il y en a qui sont même indifférents. Allez, c'est quoi, là. Faites et allons-y. C'est ça la majorité. C'est-à-dire que on ne calcule pas les Togolais. La personne a fait, on ne le regarde pas. La personne veut juste qu'on diminue le prix du gaz de 10 000 à 5 000. Il n'en veut pas, alors qu'au Burkina, c'est à 2500. La personne veut qu'on réduise les taxes. Il n'en veut pas. Donc, le problème du Togolais ne concerne pas ceux qui nous dirigent. Leur problème, c'est la médiation. Pour d'autres, c'est badigeonner en bleu, blanc, leur maison, acheter de l'immeuble et tout ça. Maintenant, si on veut prendre quelqu'un et qu'on veut le tester pour voir s'il est en bonne santé, ça aussi, c'est leur problème. S'ils veulent choisir quelqu'un sans débat, par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée des chambres, pour devenir président, ça c'est leur problème aussi. Parce que c'est les mêmes personnes. Vous allez voir les victoires de rue vont se bousculer, les cartouches vont se bousculer. C'est-à-dire ceux qui ont déjà le jeu, vous allez voir un jeu de chaises musicales qui va encore se reproduire. Les mêmes personnes qui sont des milliardaires, qui déjà sont dans la minorité pilleur, ils vont encore se retrouver là-bas. Comment un peuple va vouloir suivre ces gens-là? Ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait le courage de leur dire ça.
Merci
en bref. Le Togolais veut un jugement à la tête de l'État. 60 ans, c'est bon quoi.
Merci Ambroise. Oui, Magla, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que ça n'intéresse pas trop les Togolais?
Bon, je ne sais pas trop. Moi, ce que je sais, c'est que c'est tout un processus qui est entamé. Et comme on l'a dit, ça va s'achever au plus tard le 6 mai.
Oui.
Et donc, nous sommes quoi, à deux semaines de l'alliance, on attend de voir. C'est que vous avez évoqué le cas du programme officiel, n'est-ce pas, de la célébration du 27 avril. Et il est clair que on ne connaîtra pas le prochain président de la République avant, n'est-ce pas, le 27 avril. Mais ce qu'on ne peut pas oublier, c'est
puisque dans ce programme, en aucun cas, on a cité le nom du président de la République.
Exactement. Mais la réalité, c'est que du 27 avril au 6 mai, il n'y a qu'une semaine. Et donc, il n'y a plus assez de temps. Et c'est justement c'est pourquoi moi j'ai dit le choix de ces médecins-là pour certifier, n'est-ce pas, la santé des éventuels candidats. Moi je ne doute pas de la compétence de ces médecins, mais je dis tout simplement que c'est une formalité. C'est une formalité en ce sens qu'on l'a déjà vu sur le continent. Vous vous rappelez du cas Ali Bongo? Ali Bongo était allé aux élections, les médecins cooptés ont crié sur tous les toits qu'il était en bonne santé. Voyez-vous, certifié avec des documents tom pour dire que le monsieur va bien.
C'est ce que j'ai dit.
Mais juste après.
Oh, il était sous le coup de l'AVC.
Jusqu'à ce que l'AVC
ne me retienne.
Le responsable de la garde présidentielle qui lui a fait le coup d'État, qu'est-ce qu'il a dit? Que son patron n'est pas valide, que son bras de travail n'est pas opérationnel, que c'est sa femme et ses enfants qui signent les documents officiels de l'État. Voyez-vous. Donc c'est pour dire qu'en réalité, nos médecins en question, ils sont choisis. Bravo. Je ne doute aucunement de leur compétence, mais la réalité est qu'ils doivent se convoquer au tribunal de leur conscience. C'est-à-dire qu'on sait que politiquement, ça va être très difficile que, surtout qu'un candidat est issu d'un bon parti, qu'on soit capable de dire que, ah, ça là, il n'a pas vraiment l'énergie nécessaire pour faire le job. Mais s'il est vraiment le cas, si présent, il faut qu'il se surpasse, qu'il fasse honneur à leur parcours, à leur diplôme et tout ça, pour dire, je suis un professionnel, on m'a confié un travail, le travail fait, je me rends compte que tel candidat n'ont pas la force ni l'énergie nécessaire pour faire ce job. Et même quand ça ne plairait pas à des gens, tu auras quand même la conscience tranquille que de valider la santé d'un candidat que 2 mois après, qu'on découvre autre chose.
D'accord, merci. Oui, Ambroise, vous êtes revenu sur cette question lors de l'examen national dans l'enseignement supérieur. Vous écrivez « Examen national dans l'enseignement supérieur ». Un avis scientifique clarifie son incompatibilité avec le LMD.
Oui, tout à fait. On a déjà survolé l'axe qui concerne le juridique, c'est-à-dire qu'il y a une loi 2017, il y a un décret 2024. La loi et le décret, il n'y a pas match dans l'ordonnancement juridique. Et en plus, nous sommes revenus sur l'incompatibilité même du système LMD et l'examen national. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas une question à discuter, quoi. Maintenant, nous avons maintenant interrogé un spécialiste qui est spécialisé en sciences politiques et communication. C'est un docteur qui a donné un avis presque scientifique. Et cet avis-là nous dit que, à titre, il y a plein de choses dans le journal, si les gens le lisent, ils comprendront. Une uniformisation, créer un examen dans le système des VAC va engendrer une uniformisation arbitraire du contenu, pourtant très différent selon les disciplines. Il dit une rupture, ça va créer une rupture de l'autonomie universitaire, principe sacré du LMD et des accords du CAMES. Parce que le CAMES, c'est une organisation supranationale.
Après ça, on va y aller aussi rapidement, parce qu'il y a midi.
Il y a une incohérence méthodologique. Un étudiant en lettres n'est pas confronté à la même rigueur méthodologique que celui de mathématiques et du droit. Il y a une bureaucratie nécessaire, mobilisant les ressources. Il y a une corruption potentielle avec la centralisation. Il y a une rupture pédagogique, car les étudiants se concentreront sur l'effort continu. Il y aura une concentration sur les années. Ils laisseront les autres UE derrière. Pour ceux qui sont étudiants encore, ils comprendront ce que j'ai dit. Et en plus, ou les enseignants. Il y aura une démotivation des enseignants dont le rôle dans l'évaluation serait marginalisé, voire méprisé. Donc, c'est clair que, pour finir, c'est clair que on sort carrément du système LMD. On serait dans l'ancien système, le problème ne se poserait même pas. C'est comme on est en première ou en terminale, où on va en examen. On dit que vous allez en examen avec trois matières fondamentales. Et les autres matières que les gens n'ont pas encore validées en première, deuxième année, ils vont faire quoi, comment? Les gens sont obligés de se concentrer sur les trois matières-là, ils vont laisser les autres, ils feront 10 ans, 20 ans, ils ne valideront pas.
D'accord, merci Ambroise, je pense quand même qu'on est revenu largement sur ce dossier. Merci. Voilà, merci, hein. Merci cher confrère. Je sais que nos auditeurs sont impatients à rentrer en ligne parce que ils nous ont écoutés pendant pratiquement 60 minutes. Nous allons leur donner aussi la parole de s'exprimer sur nos sujets débattus ici au Club de la Presse et c'est sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour.
Papa, bonjour.
Oui, Basile, bonjour. Comment vous allez? Basile, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit. Diminuer vraiment le volume.
Ça va.
Et ça va maintenant. Allez-y.
Je salue vous tous. Hein. Sans exception.
Merci beaucoup. Allez-y.
Et vous avez posé une question à vos collègues. Est-ce que ça intéresse? Non, ça n'intéresse pas. Ceux qui n'arrivent pas à répondre là-bas, que ça m'intéresse pas, je ne sais pas quel est leur motif, mais ça n'intéresse pas un Togolais. C'est ce qu'on doit savoir. On ne peut pas être dans un pays, tout ce qu'on fait, c'est pour punir la population. C'est ça, c'est parce que tout doit être cher ici, et puis c'est ici qu'on va payer moins cher les fonctionnaires. Au Togo ici. Tout doit être cher, puisque dans les autres pays, du reste de l'Afrique de l'Ouest, vous ne pouvez pas dire dans le monde. Mais ici, le salaire est, c'est-à-dire que, est presque inexistant. Et quand on dit des fois, les gens vont dire, c'est-à-dire à quoi ça va, même que non, ce n'est pas au Togo seul. Comment ce n'est pas au Togo seul? Donne-moi un exemple d'un autre pays. Il ne peut pas. Mais si vous trouvez, on a d'accord. Merci.
Merci Basile pour votre intervention. Bonjour Pascal, bonjour le plateau. Moi j'attends juste voir s'il y a encore des Togolais qui s'intéressent aux élections et qui perdent leur temps à une quelconque ou à un quelconque scrutin. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour Jeff.
C'est Sylvain. Et
je salue tous les confrères qui sont autour de toi.
Oui, c'est Sylvain.
Dans le studio. Oui, c'est Sylvain.
Oui, Sylvain, allez-y.
Oui, effectivement, vous avez parlé des routes. Au Togo, nous avons effectivement besoin des routes, surtout dans nos quartiers, notamment à Blocamé, Conakry et autres, pour des raccourcis. Je salue le travail que le maire Gomaro est en train de faire. Peut-être un travail mal ficelé, parce qu'il a tout écrit, toutes les voies, ensemble, en même temps. Il ne peut pas arriver.
Alors, non mais Sylvain,
l'affaire, une fois c'est bon. Maintenant, quand vous rentrez vers Ablogame ou autre là, tout est bloqué. Vous ne pouvez pas passer une voie aller chez un ami. Il a tout détruit. Il ne peut pas faire tout ensemble. Il faut détruire une voie et la construire une fois de bon. On a besoin des routes, des raccourcis à Lomé. L'élection du pape. C'est Dieu même qui choisit ces cardinaux en conclave, qui sont inspirés par l'Esprit Saint, qui nous font sortir notre pape pour l'œuvre de Dieu. Sinon, l'être humain ne fait rien là-bas. Si c'est la volonté de l'être humain, l'Église catholique n'existerait plus depuis. C'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui a la charge. Point bas.
Merci. Merci Sylvain pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 315. Allô?
Allô?
Allô, allô, bonjour. Allô? Décidément, il n'est pas en ligne. Bonjour, le plateau, monsieur Ambroise. C'était pas à Ségbé seulement. Au camp GP, on a vécu le calvaire la nuit de lundi. La société a coupé le courant plus de 5 fois. On crie tout le temps et c'est de l'eau sur le dos du canard. Ce n'est pas sérieux. Et c'est Serge qui nous écrit. Allô?
Allô.
Bonjour, madame Essy.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien. D'accord, allez-y.
Je fais un coucou à Loïc. Hein. Il vit à Lomé où il est en France. Il est président d'un truc français.
Loïc est à Lomé.
Il est à Lomé.
Oui.
Fabrice aussi, on n'entend plus.
Et justement, Fabrice aussi va très bien.
Ça va, d'accord. Mm. Bon. Toujours les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes de précarité. Il n'y a pas de route. Le courant. Les araignées, après, ce sont 2 ans de règne sans partage. Et puis, ce sont 5 de l'indépendance. Et puis, vous êtes là, vous nous dites là-bas, on n'a rien contre personne, et ils font ce qu'ils peuvent. Comment ils peuvent faire, les dirigeants peuvent faire ce qu'ils peuvent seulement. Ils nous doivent tout, tout. Des allocations, des routes, des marchés, des hôpitaux climatisés, tout, sécurité sociale, ils nous doivent tout ça là, parce que ils détiennent notre argent. Et c'est pas normal. On a dit 5 ans, un mandat de 5 ans, tu passes la main. Tu ne prends pas la République comme ton épicerie, pour qu'on en arrive là. Le kilowatt-heure là, coûte combien dans la sous-région, et par rapport à ici. Et puis tout le reste, et voilà quoi, moi je vais parler du pape. Le pape, on nous dit qu'il a eu la pneumonie sévère. Le pape, sa santé est stable. À Pâques, le pape s'est apparu. Et le lendemain, on nous dit que le pape n'est plus. Le Vatican aussi n'a qu'à arrêter ce genre de trucs-là. Ils n'ont qu'à arrêter dans le monde. Merci.
Merci, madame Essy, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 315. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir et nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp, 90, 45, 78, 57. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour.
Votre nom s'appelle?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour. Votre nom c'est?
C'est monsieur Abdoul.
Monsieur Abdoul, vous nous appelez de quel quartier?
Bon, moi,
Thomas. Bon, je vous salue, je salue le plateau.
Oui, allez-y.
Je voudrais parler du côté des accidents de la route à Lomé, parce que ça devient inquiétant. Et je vais inviter donc nos frères Zedman, ceux qui transportent nos mamans et les bébés au dos. Franchement, s'ils les transportent au dos, ils n'ont qu'à oublier les petits calculs financiers pour les amener au bon port. Sinon, vraiment, c'est inquiétant. Et je viens aussi féliciter nos soeurs et nos dames qui vont servir aussi à mon pot, les bébés au dos. Franchement, félicitations à elles, qu'ils vraiment, qu'elles fassent tout sur les routes, rouler aussi doucement, éviter les caprices des Z-Man qui font n'importe quoi pour amener nos petits frères, nos petites soeurs qui sont au dos. Vraiment, je les jette de fleurs, beaucoup, beaucoup de fleurs à elles. Elles se battent pour vraiment soutenir les foyers de leur mari. C'est une bonne chose. Le reste, vraiment, je vais dire que, bon, comme les frères ont dit tout ça là-bas, vraiment, que tout le monde prenne conscience pour que vraiment le pays puisse aller en avant. Et puis, le CHU aussi, je vais parler de nos docteurs. Franchement, ils font un bon travail, ils connaissent, ils ont leur spécialité, mais qu'ils fassent quand il y a un patient, vraiment, qu'ils aident maintenant les accompagnants pour vraiment résoudre le problème de leur malade. C'est très important.
D'accord, merci, Abdoul. Oui, merci Abdoul pour votre intervention. Bonjour Canal FM. Il ne faut pas que Monsieur Ambroise s'étonne pour la prise de parti de nos chefs cantons et autres concernant la 5e constitution. Et cela date depuis car moi j'en ai vu plein aux yeux de la part de mon oncle Partenel qui est chef dès à présent. Et c'est très déplorable. Ils ne cherchent que leur bien et ne se soucient pas des autres. Merci, c'est André qui nous écrit depuis Dakar. 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Et Patrick?
Comment vous allez?
Ça va pas, la grâce de Dieu. Et chez vous?
Ça va bien aussi, par sa grâce.
D'accord, allez-y.
Ben, écoute, Pascal, je suis un peu étonné, hein, parce que tu étais aussi étonné quand on disait qu'il y a le racisme au niveau du Vatican, là. S'il n'y a pas le racisme, est-ce que depuis tu as vu un pape chinois, tu as vu un pape africain, et pourtant il y a des cardinaux africains là-bas, mais des cardinaux asiatiques ou bien plus précisément chinois, je ne sais pas s'ils sont là, mais depuis là, on n'a jamais vu un pape chinois ni japonais. Donc du coup, ça là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas le racisme. Ça c'est un de deux. Bon, je ne sais pas si c'est leur doctrine, mais je pense que ça pose problème. C'est pourquoi, entre temps, le pape François, Père son âme, a sorti vraiment des révélations pas possibles. Mais pourquoi, à l'heure là, pourquoi ne pas voir et réorganiser même l'Église catholique permettant aux prêtres de se marier? Ça éviterait beaucoup de problèmes qui se posent présentement. Mais pourquoi ne pas les autoriser à avoir des femmes comme les pasteurs? Bon, c'est ça, pour que le prochain pape réfléchisse à cela, le racisme, il va falloir ben, la première puissance mondiale, les États-Unis. On a eu un président noir, ou bien on a eu un président noir, mais pourquoi pas un pape noir? Bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô, premier, c'est le dernier aussi.
Kim Basile.
Bon, il faut voir aussi. Quand ces chefs disent que l'élection présidentielle, ça dépense beaucoup de l'argent et ainsi de suite. Quand on a voté la C92, quelqu'un a quitté aller chez les chefs pour pouvoir, qui est d'accord avec cette constitution. C'est parce qu'ils savent que ce n'est pas bon, ce qu'ils sont en train de faire. On ne va pas se leurrer pour permettre au président actuel de rester. Au pouvoir et intérieurement. C'est pourquoi ils font tout ça là. Pour tout ce n'est pas quoi. Les 61 et sénateurs, combien de députés on a pris, venir ajouter aux députés. Leur charge, ça ne dépasse pas une élection présidentielle.
Non, on ne va pas se retrouver. C'est-à-dire quand ils nous voient comme des cons, c'est ça qui m'énerve beaucoup. Nous ne sommes pas des cons dans le pays là.
D'accord. Merci, merci Basile. Mais merci Basile pour votre intervention. Je pense que Basile, il était le premier et aussi le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Bonjour Pascal, bonjour le plateau. Togo, premier pays à avoir vendu l'essence 1 litre à 2000 francs. Et bref, 3 millions pour soutenir et donner TV7. Je suis d'accord, mais pourquoi ne pas soutenir aussi la société avec cet argent qu'on arrive à donner aussi facilement comme ça en seconde position pour soigner le paludisme? Nos dirigeants sortent du pays, alors où ont-ils trouvé ces docteurs experts pour venir prêter serment et faire des analyses à notre futur président de conseil? Bref, c'est Kodjo depuis Adido Gomé. Nourdine Agbere qui nous écrit Red Puissance 649 en place 590, entretien et branchement 590, éclairage public 605, au total 2434 francs comme excédent sur le montant à payer. Là, il veut parler alors de ce que le citoyen paie à la fin alors du mois par rapport à la facture de la société. Chers confrères, nous revenons en plateau hein, pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission de ce jour. Et là, vous avez écouté les uns les autres se prononcer avec des réactions également sur nos réseaux sociaux et aussi et notre plateforme WhatsApp. Votre réaction?
Bon, oui, enfin, ça c'est la réaction des auditeurs de façon classique sur les sujets dont nous avons débattu. Je n'ai pas autre chose à dire, ça reste également leur avis. Bon, nous on a parlé de beaucoup de sujets. Et donc, on est pratiquement arrivé à la fin de l'émission. Je souhaite bon appétit à toutes et à tous.
D'accord, merci beaucoup, Elom. Oui, Ambroise.
Non, moi, j'ai un sujet que je voudrais. Je respecte ce que les auditeurs ont dit. Et on a la une de notre journal aujourd'hui qui titre Casquette de médiateur à Fognan-Simbé dans le conflit entre la RDC et le Rwanda. Une meilleure occasion pour les forces d'opposition de retourner la situation. Dans cet article, nous renvoyons dos à dos et le pouvoir et l'opposition, le pouvoir qui cherche toujours à conserver son régime et ne voudrait pas lâcher prise, ne serait-ce qu'une petite place à ceux qui sont en face, et l'opposition aussi qui cherche, surtout les forces d'opposition, c'est-à-dire société civile, mouvement et partis politiques, cherchent à renverser la situation pour pouvoir obtenir le changement. Les restrictions qui étaient là, depuis la nuit des temps par rapport aux manifestations, on a l'impression qu'il y a une certaine évolution. Et donc, Fognan-Simbé est en RDC actuellement, il va aller en Ouganda, tout ça là. C'est le moment où jamais l'opposition doit profiter pour remobiliser la troupe afin de battre le pavé. Parce que c'est deux choses. Soit il choisit de réprimer pour salir l'image du médiateur à l'extérieur, soit le pouvoir choisit de laisser lâcher prise. Et
merci, puisque notre temps est déjà avancé. Alors oui, une note alors pour la fin.
Non, je n'ai pas de note.
Vous n'avez pas de note. Ambroise, note pour la fin.
Oui, je donne sur 20, je donne 1.
Moi, c'est sur 10.
Ah, c'est sur 10.
Oui.
Ah, donc je donne
0,5.
0 au chef de Badia. À ceux-là qui disent qu'ils soutiennent cette République-là. Ils n'ont rien trouvé à faire dans leur ferme là-bas. Je leur donne 0 sur 10.
Ambroise Mondou, merci hein, d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal des Guadiens. Et Elom Atisoubé, merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune. Et Magloa Kinviteko, merci également à toi hein, d'être passé dans cette émission. Vous êtes le rédacteur en chef du journal Le Flambeau des Démocrates. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous qui nous avez appelés, merci pour vos diverses contributions à ce débat citoyen. Merci à Michel Tomega et également au niveau de la technique et merci à Jérôme Akouta pour la mise en ligne alors de cette émission. Je suis Pascal Oussou. Je vous retrouve demain vendredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. distribué au Togo par la SNB. Vachteiner, la vie dorée.